chapitre Yud-Dalet, Pasuk Lamed Gimel. Donc, chapitre Yud-Dalet, Pasuk Lamed Gimel. Alors, Antoine, tiens, carrément, on y va.
Tout de suite. Uvnechem Yihu Roim, Bamidbar Arbaim Shana, ונשאו את זנותיכם עד תום, פגריכם במדבר. Alors, ouvnechem, c'est vos enfants. Il y a le suffixe rem, vous. Pardon?
Plus précisément.
Et vos enfants?
Et vos
le vav, peut-être. Et vos fils.
Parce que vos enfants, ce serait yeldechem.
Oui.
Yeldechem, benechem, ben c'est le fils, hein, plus précisément c'est les fils.
Et vos fils.
Et vos fils, iou.
Iou, donc c'est le futur de être.
Oui.
Donc roim, c'est. Au début j'aurais dit voir, mais là j'ai un doute.
Non, c'est pas voir, parce que voir c'est avec un aleph.
Ouais.
Là c'est avec un aïn.
Alors,
c'est pas évident, hein.
Non, c'est pas évident du tout.
C'est pas évident. Ça veut dire c'est roé, c'est un berger.
C'est nous.
Resh.
Ok.
Resh, Aïn et oui, comme on voit. Que Moïse était le berger. Prenons dans Shemot, si vous avez Shemot, chapitre 3, premier verset du chapitre 3 de Shemot, où Moshe aya roé et son yétro. Est-ce que vous avez ça, cher.
Il faut se lever, on va chercher le coup.
Cher camarade. Camaraden.
Shemot combien, pardon? Bonjour.
Bonjour. Shemot, chapitre Gimel, verset 1.
Gimel 1.
Shemot, Gimel.
Alors, là, c'est très, très intéressant au niveau vocabulaire. Je reprends le verset Lamed Gimel, n'est-ce pas? Au Benechem. Yu Roim Bamidbar. Vos fils seront Roim. Alors, Roé, ça veut dire berger. Comme on voit dans Shemot, chapitre Gimel, verset Aleph. Yes, Yann. Moshe Aya Roé et son Yétro. Il faisait paître le troupeau de Yétro, son beau-père. Donc, Roé, c'est un verbe transitif en français. En français, je ne vois pas l'équivalent. En français, on dit faire paître. Hein, faire paître.
C'est aller et venir au gré du troupeau.
C'est excellent, cher ami. C'est excellent. Mais comme tu es dans un mode surdoué ce matin, il y a trois étapes que tu as fait dans ta tête, mais qu'on n'a pas expliqué.
Aïe, aïe, aïe.
Non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Mais ce que tu as dit est la traduction parfaite. Mais on va essayer de décortiquer parce que c'est complexe. Roé, alors regardez, je reprends. Moshe, Aya, Roé, et son Yétro. Roé, c'est un berger. Alors, par exemple, les bergers de Lot, les bergers, les Roïm de Lot, les bergers d'Abraham. Roé, c'est un berger. Ça donnait d'ailleurs. Alors, en français, il n'y a pas l'expression, c'est pas pareil, parce que berger, c'est un état, or, en hébreu, c'est un verbe transitif. En français, si vous voulez, en français soutenu, qui a des connotations qui ne sont pas tellement de notre ghetto, ils appellent ça, c'était le pasteur, le bon pasteur, n'est-ce pas? Par exemple, on dit dans le psaume qu'on dit à Shabbat plusieurs fois, « Hachem roi lo ersa », l'Éternel est mon berger. Hein? Oh. En français, on dit l'Éternel est mon berger. Mais la langue française a une connotation. On entend les cloches de l'église. Hein? Boum, boum, boum. Hein? Il y a une fois, il y avait un rabbin, hein? Un tamitracham d'Israël qui parlait pas français. Il était venu. À l'époque, on était à Créteil et je traduisais son exposé. Il m'a dit, quand tu traduis, on dirait les cloches d'une église. ça veut dire la langue française a toute une connotation un peu qui n'est pas du ghetto, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc pasteur, berger, l'Éternel est mon berger, mais c'est ça, roé. Mais le mot berger en français ou pasteur, à part le lait pasteurisé, mais c'est pas transitif. C'est pas transitif. Donc, aidez-moi. Ne me laissez pas tout seul comme ça.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Vous m'aidez pas là, vous me laissez dans mon désarroi. Comment traduire bien
transu. Ah, c'est vrai. Ouais.
Alors. Bon, vous me laissez dans mon désarroi. Non, ça veut dire j'essaie de traduire en transitif. Ok. Alors, le mot roé a aussi, on voit aussi dans le sens réa, qui est l'ami. Comme tu aimeras ton ami comme toi-même. Ve'avta, le ré, acha. Réa, Réa, c'est l'ami. Aftal et Réa, tu aimeras ton prochain, Réa. C'est-à-dire, c'est celui avec qui on partage quelque chose. Réa, c'est la personne avec qui on partage quelque chose. Alors, on reprend notre verset. Ou benechem yu roim. Mais au risque de me répéter, j'aimerais que vous m'aidiez pour trouver la nuance transitive du verbe paître. J'arrive pas.
On a l'impression qu'en hébreu, ça renvoie au sujet, alors qu'en français, ça renvoie au complément. On fait paître des vaches, on ne sait pas son troupeau, mais en hébreu, on a l'impression que c'est une action qui a un sens pour le sujet lui-même. Quoi. C'est pour ça que c'est transitif en hébreu, mais je ne vois pas
oui. Du tout comment... Alors, fait, voilà. C'est-à-dire, en français, on dit « faire paître ». Ça veut dire que le principal est ce que l'animal va faire. Moi, je suis l'auxiliaire de l'action de l'animal.
Exactement.
Tandis que en hébreu, le fait, je dirais, c'est pas la bonne traduction, c'est accompagner le troupeau. Donc, le réa, c'est le copain. Le réa, c'est tu aimeras pas ton prochain, tu aimeras ton copain. C'est le copain, c'est quelqu'un avec qui on, 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 qui m'accompagne, je l'accompagne, je l'accompagne. Ce qui donne la nuance que la nuance. Comment ?
Le lien, c'est le berger, il a le souci de chaque animal, et dans Réa, voilà. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'attention, je me soucie de l'autre.
Voilà, on s'accompagne. Donc, le berger, c'est Moïse, était l'accompagnant du troupeau. Voilà, on pourrait dire, si on veut trouver une traduction qui n'est pas parfaite, mais qui rend compte du côté que l'action est celui qui accompagne. Alors là, ici, on va voir. Donc, j'accompagne donc au rythme de la vie. Par exemple, un ami, c'est une grande préoccupation philosophique, l'amitié. Est-ce que l'amitié existe ? Comme on disait à l'école maternelle, est-ce que tu veux être mon ami ? Tu veux être mon ami ? Pourquoi tu veux pas être mon ami ? Donc ça veut dire.
Aujourd'hui, l'amitié... c'est encore jusqu'au collège, hein.
Ah oui. Non, mais bon, même passé un certain âge, on va se poser encore la question. Un ami, ça veut dire, c'est quelqu'un qui accompagne dans la vie, selon les aléas de la vie. Parce que des fois, on a des amis, entre 20 et 30 ans, on a un ami. Après, entre 30 et 40 ans, on a d'autres amis. Après, on a... Mais quelqu'un qui accompagne, c'est ça. Roé, c'est accompagner. C'est accompagner. Or, le berger, justement, quand on dit que Moïse était Roé Edson, le Midrash fait un grand développement en cela que c'était vraiment le type même du berger qui accompagnait, qui faisait vivre le troupeau, donnait une possibilité à ce troupeau de vivre selon son rythme. Donc c'est là, ça va donner le sens. Vos fils seront Roïm. Roïm, ça veut dire, ils iront de là à là, ils iront nomades, ils iront nomades dans le désert. Alors j'ai vu les commentateurs, ils sont interpellés quand même par cette expression, Roïm. Et certains veulent dire que le Resh et le Tav, parfois, se permutent, et Toïm, veut dire errer, seront errants. Mais on n'est pas obligé de dire que ça se permute. On peut dire que Roïm, c'est bien le nomade. Le nomade, il va au rythme des opportunités. Il y a l'opportunité d'un pâturage là. Après, le pâturage est épuisé. On cherche une autre opportunité. On n'a pas de plan vraiment prévu. On suit ce qui se présente. Donc, c'est ça, le nomade. Comment ?
Mais ça reste erré, alors, dans ce cas-là.
C'est erré.
Du
hein.
sens, parce que ça reste...
Errant. Ils seront errants.
Mais donc, on perd la notion de le fait qu'ils accompagnent un troupeau, même si la focalisation est sur l'accompagnateur, il n'y a plus de troupeau.
Il n'y a pas de complément d'objet. C'est, ils seront... comme quelqu'un qui accompagne. Prenons un exemple. Il y a une personne âgée et il y a une personne qui accompagne cette personne âgée. Oui. Bon ben, il faut pas. Ça dépend de la santé de la personne, du moral de la personne. si tu te fais un plan à l'avance, tu vas pas loin, quoi. Tu accompagnes. Donc accompagner sans complément d'objet, donc ça veut dire ça veut
dire dur, quand même.
Errer.
Un berger sans troupeau.
Voilà. Alors, maintenant, ici, la nuance importante, si vous voulez, parce que chaque langue, la manière de dire les choses, c'est toute une conception de l'existence. On dit dans la prière à Yom Tov, « Veromam tanu mikol al shonot » Tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Et tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. Romam tanu mikol al shonot. C'est-à-dire que le langage hébraïque exprime une conception de la vie qui, dans la langue, est au-dessus des autres langues. On voit ici que être berger a un sens en tant que tel, indépendamment du fait que le troupeau paisse, c'est pas faire paître, mais c'est accompagner le troupeau. Et on voit ça dans un autre sujet qui, au niveau des mots, est complètement différent, mais au niveau du sens, est très proche. Comment on dit emprunter de l'argent en hébreu? Je sais que c'est éloigné de votre univers mental. Emprunter de l'argent, je
crois. C'est Alba'a, non?
Comment?
Après, je crois que c'est Alba'a.
Oui, très bien, Razak. Ah, alors, regardez, c'est très très joli. Un petit clapping, un truc comme ça. Voilà. Regardez, on reprend. Thierry nous dit Alba'a. Je ne veux pas faire d'erreur. Une petite seconde, j'essaie de dire le mot juste, sans faute d'orthographe. Bien, oui, alors. Bien, après, se dit, comme tu viens de dire Thierry, ça se dit Alba'a, un prêt d'argent. Mais est-ce que vous voyez ici une anomalie? Non, je sens que vous allez pas la voir. Donc j'explique. En hébreu, en français, tu as le prêteur et l'emprunteur. Qu'est-ce qui est actif? Le verbe, c'est prêter de l'argent. Et celui qui est la conséquence, c'est l'emprunteur. En hébreu, c'est le contraire. Ce qui est central, c'est l'emprunteur. Ça se dit lové. Bon, lové. Alors, Abraham Drogoziner nous dit, à raison, que dans les lois de Maïmonide, on dit « malvé vélové », les lois de prêteur et d'emprunteur. Très bien. Alors, « lové », c'est lui qui est actif. Et le prêteur, il fait être emprunteur. Et d'ailleurs, le mot « lové », lové, c'est le même mot que Lévi. Lévi. Parce que c'est quoi le mot Lévi? Lévi. Lévi, c'est lorsque Léa a eu son Lévi, elle a eu son deuxième fils. Elle dit, maintenant, mon mari va m'accompagner. Lévi, ça veut dire accompagner. Parce que, bon, il y a un contentieux qu'on a un peu toujours du mal à saisir. C'est que Léa, elle avait l'air d'être un peu laissée pour compte. Elle est contente d'avoir ses enfants, que son mari va faire attention à elle, va l'accompagner. Maintenant, mon mari va m'accompagner. Lévi, ça veut dire accompagner. Et d'ailleurs, c'est la vocation des Lévi, c'est d'accompagner le travail du tabernacle, du temple. C'est eux qui aussi accompagnent les enfants d'Israël en leur enseignant. Les Lévi, la vocation dans la structure du peuple d'Israël, c'est les maîtres. Les maîtres, ils accompagnent. Alors, donc, celui qui emprunte l'argent, il accompagne l'autre. Il est levé. Et le prêteur fait que l'autre l'accompagne. Malvé, c'est malvé. Malvé, il fait accompagner. Le malvé fait accompagner. Donc ça veut dire qu'en vérité, celui qui emprunte, c'est ça l'action principale. Il, en empruntant, il crée une relation. Il crée une relation où, pendant un laps de temps, il va partager quelque chose avec l'autre. C'est ça le principal. Et l'autre lui donne la possibilité de ça. Il permet ça. D'où la question, par exemple, que nous avons étudié dans Traité Kiddushin avec Damien, là, et avec Julien, on a étudié ensemble. Si, par exemple, quelqu'un me doit 3000 euros, comment puis-je vendre cette créance à quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on avait dit, subprimes et judaïsme. Et d'ailleurs, M. Damien Blumenfeld, ici présent, a écrit un texte qui se trouve sur le site sur ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez lu, relu et appris par cœur.
Hein? Très beau texte. Moi, je l'ai lu, très beau texte.
Comment?
Ah, j'ai lu.
Très beau texte, ouais.
Hein, c'est bien, hein? Sur ce point-là, c'est ce point précis.
Il est où sur
ce site? C'est-à-dire qu'emprunter, ce n'est pas simplement un flux d'argent. C'est créer un accompagnement humain entre M. Intel et M. Intel. D'où la difficulté juridique, la difficulté juridique de vendre une créance, puisque c'est pas seulement une créance, c'est pas seulement un flux d'argent, mais c'est une relation entre deux personnes. Ça c'est vraiment, je dirais, ça c'est l'hébreu. Là on est dans l'hébreu biblique. L'hébreu biblique a une pensée. Je vous enverrai le lien avec le texte que Damien a écrit, qui synthétise cette étude que nous avons faite dans le traité Kiddushin. Et c'est un point, là, si vous voulez, on risque de dire un peu, c'est un peu bête. Ça, c'est de la Torah, si vous voulez. C'est pas le Parisien libéré. J'aime bien le Parisien libéré, mais là, c'est pas Parisien libéré, c'est de la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, roé, c'est accompagné. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, ça a aussi des incidences, si vous voulez. Prenons un exemple. Un exemple, je ne sais pas si ça va vous plaire ou non. Quand on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », alors, on ne va pas traduire ton prochain, parce que le mot « prochain », c'est une bonne traduction, parce que dans « prochain », tu approches. Prochain, c'est proche. Mais ton ami, fais-moi ton ami comme toi-même. Ça veut dire, au niveau juridique, que si quelqu'un est un impie et un fauteur patenté, on n'a pas de mitzvah de l'aimer, de l'aider, par exemple. Il n'y a pas de mitzvah de solidarité avec un rachat, un impie. Si tant est qu'on définit qu'est-ce que c'est un impie, hein. C'est hors du propos là maintenant de définir qu'est-ce que c'est un impie. Mais si tant est qu'on aurait défini qu'est-ce que c'est un impie, il n'y a pas de mitzvah de solidarité avec quelqu'un qui est un impie. Parce que c'est avec quelqu'un, le copain, avec qui on a quelque chose en commun. Si cette personne, même si elle est juive, mais elle se démarque de la consensus de la vie juive, par exemple, comme ça peut exister, on n'aura pas de mitzvah de Ve'avta le'raha kamocha à son égard.
Ça nous lie à sa dimension impie, c'est ça que ça veut dire?
Comment?
Ça nous lie à sa dimension impie, c'est ça que ça veut dire?
Non, c'est le contraire. C'est que si on n'a pas de choses en commun, on n'a pas cette mitzvah.
Ah d'accord. D'accord. C'est le lien qui permet la mitzvah.
Voilà. C'est okay. Voilà. Prenons un exemple. Je ne sais pas moi. L'exemple dans le Talmud qu'on a beaucoup étudié au fil des temps. On a beaucoup étudié ça. Prenons un exemple. Des parents, par exemple, qui... Quelqu'un, c'est le fruit d'un adultère. Son père n'est pas le mari de sa mère. D'accord ? Et son père, c'est son père. Ça veut dire, c'est son géniteur. Il est juif. Et il ne s'est pas repris de cette faute. Ça veut dire, il n'a pas fait de tchouva. Pour lui, ce n'est pas un problème. D'accord ? L'enfant n'aura pas la mitzvah de respecter son père dans un cas comme ça. Il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Les critères juridiques de respect ne s'appliquent pas. C'est un sujet dans le traité, un sujet important dans le traité Yevamot. Ok, j'ai cassé l'atmosphère.
Bon. Réfléchis.
Comment? Ok, tout ça, le mot Rohim. Ouais, le mot Rohim, parce que ami, copain et berger, ça veut dire accompagnateur. Donc ici, accompagné, normalement, il y a un complément d'objet. Puis s'il n'y a pas de complément d'objet, ça veut dire errer. Ou benechem yu roim bamidbar. Donc oui, Antoine, c'est toi qui as commencé.
Donc vos fils seront errants ou
oui c'est bon.
Oui, seront errants bamidbar donc dans le désert. Arbaim shana, c'est 40 années, 40 ans. Oui,
40 ans.
Venasu, donc là on voit nosé comme Shoresh.
Oui.
Donc c'est porté.
Oui.
Donc ils porteront.
Oui.
Alors, et zenutechem atom. Je vois pigrechem après, donc là je me souviens d'hier, mais et zenutechem atom. Zenutechem, je ne me souviens pas.
Alors, Zenutechem, bien. Zenutechem. Alors, la racine, tu connais la racine?
Je la connais.
Tu la connais.
Alors, on va aller la chercher, bien
Il
sûr.
Il faut partir du principe que tu connais la racine.
J'en suis sûr.
Tu vas voir, c'est hyper facile. C'est quoi la racine?
Alors, le Zayin, on peut le prendre dans la racine.
Oui, on le sent.
Donc, on le sent bien, celui-là.
Ouais.
Le Tav a l'air d'y être aussi, puisque Chem, à la fin, ne va pas y être. Donc, peut-être Zayin, Nun, Tav.
Oui, disons, moi, j'aurais Zayin, Nun,
et. Pas Nun. Zayin, Nun.
Voilà. Ça veut dire c'est quoi?
Zona.
Oui, Zona. Ça veut dire quoi?
Ça me met dans une situation délicate.
Comment? sujet. Zonas, ça veut dire une prostituée, d'accord?
Ok.
Hein? Zonas, ça veut dire prostituée. Alors. Zain nun e. Mais. Donc le mot zona, ouais, c'est une prostituée. Mais la racine du mot, plus simplement, tu connais ce mot qu'on dit tous les jours.
Ah, Abraham vient de dire znout.
Oui, évidemment, c'est le mot znout, évidemment. Oui, tu as raison, Abraham, hein, tu as tout à fait raison. Mais la racine. Alors, on dit tous les jours, Azan et Aolam, Kudo Betubo, Bechen Bechesed Rachamim, Azan et Akol.
Azan
et Aolam. Mazon, Birkat Amazon.
Birkat Amazon.
Alors, zoner, c'est nourrir. Zan qui nourrit. Zoner, c'est zoner, c'est zoner, c'est se nourrir, et c'est se nourrir, et aussi c'est, on pourrait dire, consommer. Consommer.
Ah, c'est un consommateur, ça.
Comment?
Un consommateur, ça a la même racine? Oui, ah, ça utilise zoné? Oui, d'accord.
Alors, je ne sais pas, en hébreu moderne, comment on dit consommateur? Je ne crois pas qu'ils prennent cette racine. Mais consommer. Dans le champ péjoratif. La racine du mot, c'est znout. Le znout, alors, c'est une grande question. Une grande question, qu'est-ce que c'est la dimension du... Le znout, c'est la dépravation sexuelle. Znout, dépravation. Maïmonide explique qu'une relation, alors bon, il y a des grands débats là-dessus, je ne rentre pas dans tous les détails, mais je ne rentre pas dans tous les détails qui sont énormes. Mais Maïmonide explique, un jeune homme juif avec une jeune fille juive, ils ne sont pas mariés, ça s'appelle znout. Mais où est-ce qu'il y a une dépravation? A priori, pourquoi tu dirais que c'est de la dépravation? Alors, Maïmonide explique, parce que comme je n'ai pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement juridique, c'est une relation gratuite. On va dire en français, tu dirais, c'est de l'amour. C'est l'amour. Alors, notre tradition dit, s'il n'y a pas d'engagement, c'est znout. Ça veut dire c'est de la consommation. C'est la consommation. Ça veut dire il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Donc là, ici, maintenant, on va comprendre. Le mot znout veut dire dépravation. Et là, on ne voit pas trop la dépravation qu'il y a quand ils ont dit « Non, on ne peut pas rentrer dans la terre de Canaan. On ne peut pas rentrer dans la terre de Canaan. Ils sont trop forts, il y a des géants. Et nous, qu'est-ce qu'on est ?» etc. On ne voit pas la dépravation. Mais il y a un laisser-aller quand même.
Mais Rav, juste…
Comment on écrit laisser-aller?
C'est l'infinitif, les deux.
Ah oui, laissez aller.
Je crois que c'est infinitif. Mais...
Voilà. Ici, ça veut dire c'est un laisser-aller. C'est comme, tu vois, le mazon, la nourriture. Il y a la nourriture, c'est un grand. La nourriture, c'est arriver à manger est peut-être le niveau ultime de qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Je dis ça un peu de manière un peu grandiloquente. Mais vous savez, dans la tradition chassidique, le repas de Shabbat du rabbi, c'est le summum. T'as le rabbi, ça s'appelle en yiddish le tish. Et les gens, ils viennent pour participer au repas du maître. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui a lancé ça. Alors, bon, tu te dis, ouais, c'est de la superstition, c'est une secte, ils sont là. Mais quelque part, manger est peut-être la nourriture est quelque part, ça peut devenir une dimension supérieure de l'expérience humaine.
C'est ce que dit le Rambam.
On consomme, on mange, excusez-moi l'expression, on bouffe, mais manger, c'est aussi la relation avec le monde. Ça peut être un respect du monde, un délice du monde. Et donc, le manger est quelque chose de très spécial. Et le mot mazon, il y a facilement, il y a un laisser-aller. Mazon, il y a znout. Il y a aussi. On se laisse aller, on mange, on se laisse aller.
Consommation,
voilà.
C'est pas l'objectif, non? Alors, comment ça se fait qu'on s'appelle Birkat Amazon si justement c'est pas une si bonne chose que ça?
Je ne sais pas aller plus loin, mais c'est sûr qu'on dit que Dieu nous donne la nourriture, c'est on dit Noten Lechem le Chol Bassar, qui est l'Olam Razdo, que Dieu nous donne la nourriture, du pain à toute créature, ça c'est le summum de la gratitude qu'on a. Je ne sais pas. Il y a simplement ce qu'on peut mettre en relief, c'est que ici il y a un lieu qui peut être dans les choses les plus élevées et le plus grand laisser-aller.
À voir avec Tamar. Hier, quelqu'un il disait que Tamar, c'était l'exemple. C'était ça qu'on s'était servi comme modèle pour la sainteté.
Voilà, oui. Voilà, c'est le lieu où ça peut basculer entre le plus élevé. Et ça, c'est un grand thème. Hein. Les maîtres du chassidisme ont énormément travaillé ça. Ça, c'est un grand thème. Rav Nachman de Breslav. Le Baal Shem Tov et son petit-fils Rav Nachman de Breslav ont énormément travaillé ça, et d'autres encore. Il y a un maître, un rabbi chassid d'il y a un demi-siècle, le Shomer Emunim a aussi beaucoup travaillé ça. C'est quelque chose de très 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 présent dans le chassidisme.
Okay. Pour la...
Métis, ça veut dire.
Pas mal.
Alors, Laurence Cailloun nous dit quelque chose là qui a l'air de très rigolo. Attends une seconde.
Oui.
La société Amazon. Ah, d'accord. Pas mal. C'est possible. Il faudra demander.
C'est moi, c'est pas.
Jeff, d'ailleurs, je suis étonné, je ne l'ai pas vu là ce matin, Jeff. Hein. Là, Bezos, là, il est pas mal celui-là.
Il y a une grande bracha. Hein.
Ah oui, c'est-à-dire le laisser aller. Si tu veux te faire du fric, incite les gens au laisser aller. Ça, c'est le. C'est comme ça que tu fais du fric. Alors, oui, parce que là, c'est la consommation par excellence. Hein. Voilà. Alors, tout ça pour dire que ici, ça veut dire laisser aller. On y va. Donc, vos fils seront errants dans le désert 40 ans. Venassou, ils porteront vos laisser aller. Votre laisser aller.
Et Atom.
Ad Tom.
Parce que le Ad, on a dit que c'était jusqu'à.
Oui, Tom.
Tom.
Ah, ah, ah.
Ça fait penser à Tam.
Peut-être, oui, mais... parfait. Mais... Petit clap. Tam. Tam, ça veut dire quoi, Tam?
Ça veut dire soit simple, soit parfait.
Oui.
Complet, peut-être.
Oui. Parfait, d'accord. Alors, Atom.
Ah, jusqu'à ce que ce soit complet. Jusqu'à...
Donc, ça veut dire se termine. Parce que complet.
Se termine.
Quand c'est complet, c'est terminé. Ça veut dire, il y a, je ne sais pas moi, il y a un spectacle, il y a 50 personnes, j'arrive en retard. Oui, c'est complet. Donc, ça veut dire c'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est complet, donc c'est parfait. Donc quand c'est la perfection, c'est un problème. Disons que nous on dit ah là là, je me sens parfait. Alors là, pourquoi Dieu il va te donner encore des jours à vivre si tu arrivais à être parfait? Si nous on a encore des jours à vivre, c'est que on n'a pas terminé ce qu'on avait à faire. Donc il vaut mieux pas être parfait, quoi. I am very parfait. C'est donc là, c'est terminé. Gamme au vert. Alors maintenant, tout ça pour dire que Tom, ça veut dire terminé, jusqu'à ce que se termine. Ah, de Tom, jusqu'à ce que se termine. Donc, je reprends, c'est très intéressant, que le parfait et terminé, c'est exactement le même mot. Jusqu'à ce que se termine. Pigrechem, on l'a vu hier.
Qui à l'envers veut dire mort d'ailleurs. Parfait à l'envers, ça veut dire mort. En verlan.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Oui, oui. Met. Oui. Très bien. Atom, jusqu'à ce que se termine. Pigrechem, on l'a vu hier.
Il est figé.
Comment ?
Il est figé.
Non. Ah oui, il est. Ouais, là, il est figé. Il est
figé. Figé.
Est-ce qu'il est passé notre ami Antoine ? Antoine Lévy.
Il a 15 ans.
Bon.
Il s'appelle Julien.
On va continuer. Donc, pigrechem, ça veut dire vos cadavres. Hein, jusqu'à ce que termine vos cadavres, bamidbar, dans le désert. Versez la médalette, Élie, s'il te plaît.
C'est intéressant qu'il faut 40 ans pour qu'un cadavre disparaisse.
Oui, alors Rachid développe hein, pourquoi il fallait 40 ans. Hein, ça c'est pourquoi il fallait 40 ans. Parce que personne n'est mort avant 60 ans. Oui, la Magdalette, Élie, s'il te plaît.
La Magdalette. Alors, Benispar, Ayami, Asher Tartem, Keta Aretz, Arbaim, Yom Lashana, Tissou et Avonatechem, Arbaim, Shana Vita'atem, et Tenuachim.
Oui.
Alors, traduction. Alors, Benispar Ayamim. Alors, Benispar. Benispar, on avait dit, c'est le nombre.
Le nombre. Oui, le nombre.
Benispar, Ayamim, selon le nombre des jours.
Oui.
Asher Tartem. Alors, Tartem, Tartem, le Shoresh, c'est. Déjà, le temps, c'est du passé. Et c'est du, la deuxième personne du pluriel du passé. Alors, et le Shoresh, c'est tout.
Excusez-moi, on n'entend rien. On n'entend rien, là. Il y a un bruit derrière, je ne sais pas.
Ouais, il y a les enfants. Peut-être faut passer la main à quelqu'un d'autre, alors, parce qu'il y a les enfants.
Ah, pardon.
C'est la crèche là-bas qui.
Oh, ça va, on va supporter, on va supporter un peu le la marmaille. Ah, vas-y, Élie, vas-y, vas-y, ça va, c'est bon. On alors, va marmailler.
Tartem, Tartem, c'est donc c'est du, on a dit deuxième personne du pluriel au passé, et le Shoresh, c'est tout, peut-être Vavresh.
Oui. On avait dit à la plaidoirie complète de Moshe, Dieu a donné un répit, une échéance, mais maintenant c'est ce que notre cher Emmanuel Lévy connu, hein, je vais rien dire de spécial quand il dit difficile liberté. Ça veut dire que le peuple juif véhicule l'idée dans toute l'humanité qu'on peut sortir de l'esclavage et que l'homme est libre. Et que l'homme est libre. Mais dire qu'il est libre a le corollaire. C'est qu'être libre, c'est être responsable. Donc, c'est redoutable. C'est redoutable. En français, être libre, c'est être irresponsable. Ouais, jouer libre, ouais, c'est libre, ouais, c'est la récré, c'est super. Ouais, 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 on est libre, on est libre. Ouais, on est libre, on est irresponsable. Et ben, la Torah, elle, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup, que Dieu nous en préserve, sont opposés de manière violente au peuple d'Israël. Parce qu'on véhicule dans l'humanité qu'on est libre et qu'on est responsable. Et ça c'est pas aimé, ça. Être libre, d'accord, mais responsable, non. D'ailleurs, j'ai discuté avec Emmanuel Macron, on va changer liberté, égalité, fraternité. On va dire liberté, égalité, fraternité, responsabilité. Mais il m'a dit, ça ne va pas passer. Il m'a dit, non, ça ne va pas passer. Bon, on discute, on est en discussion. Hein.
En même temps, quand on dit que la liberté s'arrête là où commence celle des autres, ça en est déjà une partie.
Comment ?
Ça résonne. Je dis, quand on dit la liberté commence, s'arrête là où commence celle des autres, on commence déjà à avoir de la responsabilité envers les autres.
C'est vrai. Bon, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à ça. Ok, c'est bon. On y va. Mais donc là, c'est redoutable. Hein. C'est un passouk quand même très, très redoutable. Un jour par an, un jour par an, vous porterez vos fautes. C'est-à-dire, c'est pas seulement cette faute, parce que quand bien même il y a eu un pardon dans le veau d'or, mais il faut supporter cette faute, il faut réparer cette faute. On continue. 40 ans. Vidatem et tenu ati.
J'ai perdu le film là. Vidatem et tenu ati. Alors, Vidatem. Vidatem, c'est le Shoresh, c'est Yada, c'est savoir.
Oui.
Alors, je crois qu'il y a un Vidatem. Alors, je ne sais pas si le verbe c'est un babaï pour. En tout cas, c'est Yedatem, c'est vous avez su.
Alors, Yedatem, vous avez su, ça veut dire vous connaîtrez.
Alors, c'est un babaïpour alors.
Oui, oui. Yedatem, c'est vous avez su.
Et Vidatem, c'est vous saurez. Alors,
vous saurez.
Donc, le babaïpour là, il est devenu vie parce que c'est un yud. C'est Yedatem.
Le yud fait partie de la racine.
D'accord. Oui, mais le Vavaïpour, normalement, c'est le Vavaïpour qui change le passé en futur. C'est un V. C'est Vafta, par exemple. C'est le V. Là, alors que là, c'est un V. ça devient chérique.
Ah oui.
Alors comment savoir? Alors, selon l'intuition. C'est un vaveipour.
Quelqu'un de pro en grammaire, il saura. Mais je ne sais pas. Il doit y avoir des ficelles là-dessus que j'ignore.
D'accord, ok. Alors, vidatem busore et tout tenuachi. Tenua, c'est une réclamation, non? Non, pas de nom.
Alors, tenua.
Opposition, hostilité. Mon hostilité.
Rashi explique c'est retrait, mon retrait. Alors on voit ça dans la Torah quand dans Parashat Matot, Eni, ça veut dire refuser. Retirer. C'est un mot assez rare, hein. C'est un mot qui n'est pas très très fréquent.
Un déni, d'ailleurs, un déni, c'est quoi?
C'est un refus. Oui, c'est peut-être. On voit là-bas, dans Parashat Matot, il y a le père, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, a la faculté d'effacer les vœux de sa fille mineure. Sa fille, quelqu'un, il a une fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, sa fille dit, voilà, je fais le neder de ne plus manger de chewing-gum. Le papa a la capacité juridique d'effacer le vœu de sa fille. Ça veut dire, eni, il objecte, il retire la décision de sa fille. Il a cette capacité.
Il n'y aura plus de...
Alors, vidatem et tenuati, vous saurez mon refus, mon retrait. C'est-à-dire, je me suis retiré de vous.
Est-ce que dans vidatem, il n'y a pas une notion de vidouille?
Vidatem?
Vidatem, une notion de vidouille. C'est-à-dire qu'on...
Non, je ne crois pas. Dans vidatem, c'est-à-dire, vous aurez l'expérience, comme on l'a dit hier. Vous aurez l'expérience de mon refus.
Pourquoi il y a le tav au début là, de tenuati, du coup?
Oui, pourquoi? Parce qu'on voit souvent qu'un verbe, pour le substantiver, on met un tav. Par exemple, teluna.
Teluna, oui.
Teluna, on a vu, teluna, la... Luna, on a vu, c'était la réclamation. Eh bien, le tav transforme le verbe en substantif. On voit ça souvent. Bina, c'est comprendre. La tevuna, c'est la compréhension. Donc, souvent, le tav transforme un verbe en substantif. Donc, tenuati, c'est mon refus, mon retrait de vous.
Et pourquoi il dit ça? Chose que je ne comprends pas, c'est que Hachem s'adresse à ceux qui vont mourir, d'accord, depuis un petit moment. Et dans la mesure où ils vont mourir, ils ne connaîtront rien. Donc, ceux qui vont mourir font porter à leur descendance le fait de connaître.
Oui, non, mais le fait qu'ils vont poireauter avant de mourir pendant 40 ans dans le désert, ils ne vont pas mourir tout de suite.
Ah, d'accord.
Ils ne vont pas mourir tout de suite. D'ailleurs, on dit que c'était une épreuve terrible. Tous les 9 aves, ils creusaient la tombe. La Gemara explique, c'est terrible. Les 9 aves, ils creusaient la tombe. Ils se couchaient dans la tombe. Et ils ne savaient pas est-ce qu'ils allaient se relever. Et le matin, on se lève, quoi.
Et à ceux qui restaient dedans.
Ceux qui restaient.
Au matin, il y en a qui...
Donc, ils auront l'expérience vécue d'une impossibilité de faire quelque chose, quoi. Du refus d'Hachem qui rentre dans la terre. Après, ils voudront rentrer dans la terre, ils ne pourront pas. Ils n'auront pas l'aval de Dieu. C'est ça, tenouatim au refus. Ouais. C'est Rashi explique, vous avez refusé, alors c'est moi qui refuse maintenant.
Oui, oui.
Ok. Mazak. Bien. Ok, bien, alors on va s'arrêter là pour le moment. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.
Allez, c'est comme pour
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Au revoir.